Diego Gelmírez, je vais le prononcer à l'espagnol, est un archevêque de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Il est né vers 1070 et il est mort en 1140 et il est l'un des plus grands artisans de la prospérité et de la cathédrale de Compostelle et du pèlerinage européen et même extra-européen à Compostelle. C'est lui qui va obtenir pour son siège le titre d'archevêché en 1120. C'est lui aussi qui va doter son siège d'une série de textes fondamentaux pour assurer le pèlerinage, pour affirmer face à Rome la présence du corps des reliques de l'apôtre Saint-Jacques le Majeur à Compostelle. C'est ce que nous connaissons entre autres sous le nom de Codex Calixtinus. Il est enfin le grand artisan, c'est pas le premier, mais il a énormément contribué à l'édification du bâtiment roman, de la splendide église romane que nous connaissons encore aujourd'hui.
Est-ce que vous pourriez détailler l'apport de ce religieux du point de vue du pèlerinage de Compostelle ?
Diego Gelmírez vit à une époque un petit peu compliquée pour Saint-Jacques de Compostelle, puisque c'est l'époque de la réforme grégorienne et depuis le milieu du XIe siècle, avant même Grégoire VII, les papes mettent en doute l'authenticité de la présence de l'apôtre Jacques. Il faut donc que Diego Gelmírez démontre que Saint-Jacques est bien à Compostelle et que donc Compostelle est bien un siège apostolique. Et c'est à cela, par exemple, que va servir le quatrième livre du Codex Calixtinus, qui attribue de façon tout à fait arbitraire à Charlemagne la découverte du tombeau de Saint-Jacques. À partir du moment où on attribuait à l'empereur d'Occident, un empereur fait par un pape, la découverte de ce tombeau, en plus sur les indications de Saint-Jacques lui-même, Rome n'a plus rien dit. Il a aussi mis sur la géographie de l'époque les voyages attribués à Charlemagne. C'est ce que nous connaissons sous le nom de guide du pèlerin à Saint-Jacques de Compostelle. C'est à son époque que l'on définit quatre chemins en France pour arriver jusqu'à Compostelle. Il recueille également toute une série de miracles, ce qui fait qu'il a doté véritablement le pèlerinage et d'un chemin pour arriver jusqu'à Compostelle, un chemin qui va devenir indissociable du sanctuaire, et d'une série de légendes.
Quel rôle a joué la cathédrale dans ce dispositif ?
Pour accueillir les pèlerins, eh bien, il fait édifier une énorme église. Une église qui était toujours ouverte et qui était largement illuminée la nuit de façon à servir de phare pour que les pèlerins puissent s'y rendre. Alors il a assisté évidemment à des pèlerinages fameux. Il a attiré dans la cathédrale des personnages comme l'impératrice Mathilde en 1125 ou comme Guillaume X d'Aquitaine, le père d'Aliénor d'Aquitaine qui d'ailleurs est mort devant le maître-autel un vendredi saint en 1137. Ça a frappé toute l'Europe. Mourir à Saint-Jacques de Compostelle un vendredi saint, c'était le ciel assuré.
Décrit comme ça, le portrait de cet archevêque semble idyllique.
Il a contribué aussi, on ne va pas en faire un saint, à sa gloire personnelle. L'histoire compostellane, c'est pour expliquer tout ce que lui a fait, pour expliquer qu'il était l'ami de tous les papes et qu'il a plus fait que n'importe qui pour sa cathédrale. Il a fait une incursion en 1102 manu militari dans le comté du Portugal et il a volé des reliques à Braga, c'est ce qu'on appelle le pieux larcin, de façon en fait à doter son église de plus de reliques puisque au Moyen-Âge, l'abondance des reliques fait la renommée aussi des sanctuaires.